Alors, pour ce matin, on va lire quelques textes, et puis vous verrez le commencement, on va parler des disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis je fais un lien avec ces chers disciples sur le chemin d'Emmaüs et le millénium. Vous allez comprendre bien sûr par la suite, parce que comme ça, vous allez vous dire, oh, mais c'est quoi le lien entre les disciples sur le chemin d'Emmaüs et le millénium? On va aborder un petit peu ce matin le millénium, un peu une base là, pour revenir peut-être sur la parole du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs doctrines sur le millénium, on va en aborder trois, il y en a encore plus, hein, mais les trois les plus connus, on va les aborder ce matin. Et puis souvent, on met ça un petit peu de côté, parce qu'on veut pas se chipoter là-dessus dans l'Église. Ok, il y a trois lignes différentes, on peut comprendre ça d'une manière peut-être chacun un peu spécifique, c'est pas grave. Mais on peut se poser quand même la question, est-ce que vous pensez que Dieu a plusieurs doctrines par rapport au millénium? Est-ce que Dieu a plusieurs compréhensions du millénium? Non, je crois qu'il n'en a qu'une. Et je crois que dans sa grâce, il est bon des fois de pouvoir revenir à sa parole, pouvoir se poser des questions, peut-être même revoir sa position, parce que justement, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quelque part, vous verrez, ils ont dû revoir leur position. Ils avaient compris certaines choses par rapport à Jésus, mais Jésus voulait les amener un petit peu plus loin. Vous savez, c'est comme quand on fait un bon gâteau avec des pommes, une bonne tarte aux pommes. Tout d'un coup, il y a une personne qui va vous dire « Ah, mais tu sais, tu peux ajouter juste ceci avant la cuisson. » Et puis, si tu changes ta position, ta tarte aux pommes qui était déjà bonne, elle deviendra peut-être très bonne. Hein? Dieu se révèle comme ça, il nous fait cheminer. J'ai bien aimé l'introduction du culte, parce que je pense que c'était quand même conduit par le Saint-Esprit de Jocelyn, qui a dit qu'il fallait m'être appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Et que Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci, c'est par rapport justement à des faux docteurs qui écartaient l'Église d'un bon enseignement. Mais nous, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu appelés à croître dans la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, on ne fait rien, mais aussi à croître dans la connaissance de notre Dieu. Alors ce matin, je crois peut-être, je dis ça comme ça, humblement, peut-être que le Seigneur t'invite à changer de position. Nous verrons ceci au travers de ce message. Et le message de ce matin va servir, c'est une base, pour un message suivant, je ne sais pas quand je l'apporterai, mais de toute façon je vous rappellerai un petit peu les bases qu'on va partager ce matin, pour aborder un autre thème. Parce que si on n'est pas très clair sur le millénium, alors c'est facile de se faire, de recevoir des faux enseignements sur d'autres points. Mais si on est clair sur le millénium, c'est plus difficile que le diable nous attire dans un courant qui n'est peut-être pas la pensée du Seigneur. Donc lisons le texte de nos chers amis d'Emmaüs, Luc 24, verset 13. Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. C'est Jésus comme s'il ne savait pas ce qui est arrivé. Mais on voit, il accompagne les disciples dans leurs réflexions. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Parfois dans nos vies, on ressemble un peu à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples vont faire une rencontre. Ils sont en route en direction d'Emmaüs. Emmaüs doit être certainement leur village parce qu'ils vont proposer l'hospitalité à Jésus-Christ. C'était quelque chose qui se faisait, c'était commun. Hein. Voilà, le soir arrivait, il n'y avait pas, des lampes pour éclairer la route. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà marché de nuit sur un chemin. Hein, les chemins, à l'époque, ce n'étaient pas des belles routes goudronnées. Eh ben, moi, ça m'est arrivé, je me rappelle en mission, tout d'un coup, toutes nos piles étaient mortes, là, parce qu'on devait aller dans un village éloigné de tout. On avait pris une Lada 4x4 là, pour essayer de passer le chemin qui était complètement défoncé. À un moment donné, la voiture ne pouvait même plus avancer, on a dû continuer à pied. On est arrivé dans le village qu'à 3h du matin, mais entre-temps, moi j'étais le seul à avoir une lampe de poche, entre-temps, ma lampe de poche, la pile était morte, quoi. Et puis que vous devez marcher de nuit comme ça, c'est compliqué. Hein? Alors, on offrait l'hospitalité. Voilà, c'était une tradition de l'époque. Et les disciples sont dans un temps difficile, dans un temps de tourment. Nous aussi, des fois, on passe par des temps difficiles où on ne comprend pas forcément la pensée du Seigneur pour nos vies. Et c'est vraiment ce que traversaient ces disciples. Ils avaient, en fait, en réalité, une mauvaise compréhension de qui était Jésus. Parce que quand Jésus les questionne, ils vont dire au verset 19 que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors ils avaient une compréhension qui n'était pas erronée, mais elle manquait de profondeur, elle manquait de connaissance, elle manquait de révélation. Parce que Jésus n'était pas seulement un prophète, nous le savons aujourd'hui. Dieu voulait les conduire un petit peu plus loin, parce que Jésus, c'était plus qu'un prophète, c'était le Fils de Dieu, c'était le roi des rois, c'était le maître de l'univers, c'était le créateur de ce monde, c'était le rédempteur de ce monde, c'était celui qui un jour reviendra aussi et régnera avec puissance sur cette terre. Au verset 21, on voit aussi qu'ils sont dans la souffrance, parce qu'ils attendaient, ils espéraient que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Donc les disciples avaient non seulement une mauvaise compréhension de qui était Jésus, mais de quelle œuvre, de quelle action Jésus allait entreprendre sur cette terre. Ils avaient placé en fait des fausses attentes. Ils attendaient la délivrance complète d'Israël. Hein? C'était pas pour aujourd'hui. Nous le savons que la délivrance d'Israël, il y a 2000 ans en arrière, c'était pas pour cette époque-là. Mais il y a beaucoup de Juifs, ils s'attendaient à cette délivrance-là et ils se sont retrouvés déçus de cela parce que ils se sont dit, voilà, le Messie est au milieu de nous. Ils avaient raison. Mais ils devaient changer de position, comprendre pourquoi Jésus, quel était son but lorsqu'il est venu la première fois sur cette terre. Et là, il y avait quand même pas mal de confusion encore parmi le peuple de Dieu. Et nous, quelle attente plaçons-nous en Jésus-Christ? Sont-elles en accord avec les Écritures? Avons-nous compris son projet pour l'humanité, pour l'Église et même pour nos propres vies? Parce que c'est vrai que ça va changer les choses, suivant où on place nos attentes par rapport au Seigneur. Hein. Là, ses disciples, ils avaient passé des attentes trop élevées. Des attentes qui n'étaient pas fausses, mais ce n'était pas encore le moment. Et c'est pour ça que ses disciples, Jésus va les accompagner, afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance, afin qu'ils puissent changer de position, comprendre que ce n'était pas encore le moment pour Jésus de régner sur cette terre. Et quand on fait l'histoire de l'Église, un des points faibles de l'histoire de l'Église, c'est que souvent, elle a voulu régner. Souvent, elle a voulu entrer dans ce règne avant que Jésus-Christ soit là. Hein, on pourra peut-être une fois regarder, mais plus en détail ça, mais les croisades, typiquement les croisades au Moyen-Âge, c'était cette attente-là. C'est l'Église qui voulait régner sur la terre. Ils étaient certains qu'en allant à Jérusalem délivrer le tombeau de Jésus, alors le règne du millénium allait venir sur cette terre. C'est l'Église qui devait faire des actions spécifiques pour que Jésus et toute sa puissance puissent enfin se démontrer sur cette terre. L'attente millénariste. C'est pour ça que ce matin, j'ai envie de vous parler un petit peu du millénium. Quelle est notre compréhension, quelle est notre attente par rapport au millénium? Parce que suivant l'attente qu'on a, eh ben, on va avoir une certaine théologie, on va avoir certaines prières, et on va peut-être se retrouver dans l'incompréhension, un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans la frustration même, dans la souffrance. Qu'est-ce que le millénium? Alors le millénium, c'est un temps où le diable sera lié et n'aura plus autorité sur les nations. C'est Christ qui régnera sur cette terre durant 1000 ans. Ça peut paraître très abstrait, hein, comme ça, quand on le lance comme ça, mais c'est annoncé dans tellement et tellement de prophéties dans l'Ancien Testament, et tellement reconfirmé dans le Nouveau Testament. Il y a tellement de textes qui parlent du millénium. On défend les étudies, peu, hein, je reconnais, mais il y a du contenu. Donc, si Dieu est venu une première fois sur cette terre, il reviendra de la même manière, il l'a promis. Et s'il reviendra de la même manière, ce sera pour régner sur cette terre. Alors, quelles sont les différentes compréhensions du millénium? Alors, je vais en aborder trois. Il y a ce qu'on appelle les pré-millénaristes, ceux qui croient que Jésus doit revenir avant pour instaurer le millénium. Il y a les post-millénaristes, ceux qui croient, c'est pas compliqué, hein, ça fait un peu théologique là, que t'en annonces les choses comme ça. Les post-millénaristes, c'est ceux qui croient que l'Église doit régner pendant 1000 ans, post, hein, après, et après Jésus seulement revient. Vous voyez la différence? Les pré-millénaristes, ils croient que précédent, que Jésus doit revenir avant pour instaurer le règne des 1000 ans. Les post-millénaristes, ils croient exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est l'Église qui doit régner sans Jésus, elle doit régner pendant 1000 ans sur cette terre. Hein. Les croisades, c'était un courant post-millénariste en fait. Hein. Vous appelez pas ça comme ça à l'époque, je pense quoi. Mais dans la théologie, c'est vraiment un courant post-millénariste. Et après ce temps de règne de 1000 ans, à l'aboutissement, Jésus reviendrait enfin sur cette terre. Et puis, il y a une troisième école, et cette troisième école, c'est les amillénaristes. Ces personnes-là croient que ce temps-là, c'est une désignation symbolique, c'est 1000 ans. C'est une longue période qui s'étend depuis le début de la victoire remportée par Christ à la croix. Et toute cette période, maintenant, en fait, on serait dans le millénium. Hein, on y serait maintenant. Et puis, on attend simplement le retour de Jésus-Christ. Alors peut-être à vue humaine, c'est cette troisième position qui semble plus possible, hein, parce que ça met pas trop de défis de dire on y est, c'est bon, on n'a pas à s'inquiéter, c'est ni avant, c'est ni après, on y est, tranquille. Mais est-ce que vraiment ça correspond à ce que nous enseignent certains textes bibliques, et c'est là où je me permettrai de prendre quelques textes par rapport à ça? Parce que quand on voit aujourd'hui, est-ce que le diable vraiment on peut dire qu'il est lié, hein? C'est vrai qu'il était vaincu à la croix, c'est vrai que les autorités et les puissances ont été dépouillées de leur pouvoir, mais à la croix, il y a besoin de la croix. si la croix n'est pas effective dans le cœur d'un homme, ben Satan règne. Et je pense qu'on peut regarder autour de nous pour se dire, ben je sais pas, hein. Si vous avez l'impression qu'il est lié, là, comme disent certains, hein, ben la corde, la chaîne est plutôt longue, hein, parce qu'il n'est pas allé loin. Éphésiens 2, verset 2, nous a dit que le prince de la puissance de l'air et de l'esprit est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, hein, ceux qui n'ont pas soumis leur vie à Jésus-Christ. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit, l'esprit démoniaque est actuellement à l'œuvre dans ces hommes. On voit là que le diable n'est pas lié. Ou acte 5, verset 3, où là où il nous est parlé d'un chrétien qui s'appelait Ananias. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? C'était un croyant, Ananias. C'était quelqu'un qui avait donné sa vie à Jésus. Mais on voit qu'à un moment donné, il s'est laissé détourner par le diable. On voit que le diable n'est pas lié, même parmi les chrétiens et même parmi le peuple de Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Acte 26, verset 18. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Hein? La puissance de Satan. Satan est puissant encore aujourd'hui. Il était vaincu, mais il est encore puissant dans ses œuvres aujourd'hui. Comme je le disais juste précédemment, il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe autour de Dieu. Paul disait aux Corinthiens, deuxième épître de Corinthiens 2, verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Hein, » il disait cela à l'Église par rapport au fait qu'il faut se pardonner les uns aux autres. Si on ne se pardonne pas, alors on redonne du pouvoir à Satan, et on redonne du pouvoir à Satan même au sein de l'Église. Hein. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable, quand on voit ces textes-là, je vous ai pris quelques textes, hein, moi je suis désolé, mais je ne le vois pas lié. Je ne le vois pas lié. Alors la thèse post-millénariste, maintenant on passe à la suivante, hein, et puis la dernière que je vais aborder, c'est la pré-millénariste, c'est celle en qui aujourd'hui, je crois, est fondée bibliquement, mais ça c'est personnel, hein, c'est à vous de vous questionner un peu sur ce sujet. Alors la thèse post-millénariste, c'est celle qui en, c'est cette doctrine-là qui a été servie en fait aux croisés. C'est l'Église, comme je disais avant, qui doit instaurer une période de 1000 ans avant le retour de Jésus-Christ. Et puis on voit que cette doctrine-là a causé quand même des dégâts. C'est une Église qui n'est plus dans un esprit d'humilité et de service, mais de domination et d'arrogance. Hein. Nous, on a la solution. Venez les politiciens, vous avez des problèmes, ça ne va pas dans votre pays. Venez, nous, on va vous instaurer un règne de 1000 ans, vous allez voir, ça va être super. Hein. C'est vrai qu'on a la solution, mais on n'est pas là pour l'imposer par la force. Et c'est une solution que le monde n'a pas forcément envie d'entendre. La solution, c'est quoi? C'est la croix. Hein? C'est mourir à soi-même. C'est laisser Jésus-Christ régner dans nos cœurs, librement. Ça, c'est la solution. Mais on n'a pas la solution pour amener la guérison sur les nations. On ne peut pas mettre en route des institutions humaines qui pourraient être garantes de la paix sur cette terre, garantes d'un bon équilibre de l'économie. D'ailleurs, bizarrement, c'est justement ce que va chercher à faire l'Antéchrist. L'Antéchrist travaille dans ce but-là, dans le but de mettre, avec des institutions humaines, toutes les nations à pied d'égalité et de créer une économie mondiale. Hein? Mais nous savons que tout ceci, ce n'est pas la solution, en tout cas pas du tout ce que le Seigneur a en réserve, parce qu'il a des choses bien plus glorieuses en réserve pour chacun d'entre nous. Dans cette doctrine, l'Église change de statut, hein, de servante, elle devient dominante. Et c'est une porte ouverte à bien des déviances et des projets pharaoniques. Et puis la thèse prémillénariste, je crois personnellement que c'est celle qui est le plus en accord avec les Écritures. Et peut-être celle-ci n'est pas dans une logique humaine, mais qu'importe, car la parole de Dieu ne passera pas. J'aime donc mieux mettre ma confiance dans les Écritures que dans une sagesse humaine. Et quand les hommes pensent à savoir mieux ce qu'il faut faire que Dieu, eh bien, ça a toujours amené le désastre. Que nous disent les Écritures? Je pense qu'il est important que nous puissions les méditer. Et le Saint-Esprit est là encore aujourd'hui pour nous enseigner, pour que nous puissions croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est notre pédagogue. Jésus a fait la promesse, hein, qu'il nous enseignerait dans toute la vérité. Donc c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Il y a la présence du Saint-Esprit encore aujourd'hui qui œuvre afin de renouveler notre intelligence, afin d'aller peut-être un petit peu plus loin comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils avaient une position, ils avaient compris certaines choses par rapport à Jésus, mais Jésus voulait les conduire un peu plus loin. C'est bien là où tu es, mais viens, moi je te guide, je t'amène un petit peu plus loin, que tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses comprendre mon projet de manière un peu plus générale. Alors, quels seront les événements à la fin des temps? Je fais un super résumé, hein, vous en faites pas, je vais pas prêcher pendant encore 3 heures. Avant le retour de Jésus, l'Antéchrist va régner 7 ans sur terre, puis il sera capturé. Lui est le faux prophète, et ces deux personnes seront jetées dans l'étang de feu. Ensuite viendra le millénium, où le diable sera lié pour 1000 ans. Puis, à la fin de ces 1000 ans, il sera relâché afin de séduire les nations et les faire monter contre le camp des saints et la ville bien-aimée, là où il sera détruit définitivement. Et il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent l'Antéchrist et le faux prophète. Alors, je ne veux pas vous amener là les textes bibliques par rapport à ça, parce qu'on partirait dans une longue étude, hein. Je vous ai fait un résumé. À la fin des temps, l'Antéchrist va régner avec le faux prophète. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un esprit? Je ne vais pas non plus rentrer là-dedans. Et puis, au bout de 7 ans, l'Antéchrist sera vaincu avec le faux prophète. Ils seront jetés dans les temps de feu, c'est-à-dire en enfer. Et ensuite, Christ régnera sur cette terre pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, il va être relâché, mystère, hein, quand même, pour peu de temps, afin que le diable puisse reséduire à nouveau les nations. Hein, à la fin des temps, il y aura encore un temps où Dieu va juger ceux qui auront vécu durant le millénium, ceux qui seront nés durant le millénium, hein, grand mystère, mais là il y a des textes qu'on pourrait aborder aussi pour ces choses-là, qu'on étudie peu dans l'Église, pour laisser encore le libre choix. Veux-tu suivre Jésus ou veux-tu suivre le diable? Et le diable sera définitivement vaincu après cette courte période. Donc, moi, je crois que Jésus doit revenir avant pour établir le millénium. Je crois que Jésus, par l'éclat de sa venue, par la parousie, par l'avènement de sa présence sur cette terre, va complètement détruire les œuvres du diable et va lier le diable pour une période de 1000 ans. Et vous savez, si je reviens un tout petit moment sur les amillénaristes qui croient qu'on est dans cette période-là, moi je vous dis, le règne de Jésus, c'est un règne qui sera parfait. Amen, est-ce que vous croyez? Que si Jésus revient sur cette terre, est-ce que vous croyez qu'il va partager son autorité avec le diable? Attends, écoute, on a un truc à discuter là, ouais, t'es sympa, hein, on va manager l'histoire, on fait ça entre nous, tranquille pendant une certaine période. Non, le règne, un règne, c'est un règne. Point barre, j'ai envie de dire. Amen. Hein? Dieu ne peut pas commencer à partager son autorité sur cette terre avec le diable. Alors autrement, ce n'est plus un règne, c'est un partage de règne. Non, le règne, c'est le règne. Et c'est pourquoi je crois que la thèse amillénariste, elle n'est pas dans la pensée du Seigneur. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ce qui empêchait les disciples sur le chemin d'Emmaüs de comprendre qui était Jésus, c'était un manque d'intelligence, pas humaine, mais renouvelée en Jésus-Christ. Et nous, nous avons besoin aussi d'une intelligence renouvelée dans le Seigneur. Et comme je le disais un peu au début du message, j'arrive à la fin là, hein, si on est au clair par rapport à ce qu'est le millénium, alors on ne se laissera pas entraîner dans certaines fausses doctrines que des fois on entend dans nos milieux d'église. Je n'ai parlé d'une, c'est le reconstructionnisme, hein, peut-être vous rappelez le Kingdom Now. Ça c'est une doctrine très post-millénariste qui est bien en vogue dans beaucoup de milieux charismatiques, de dire que nous on a la solution, on va impacter les nations, on va amener la différence, les gens viendront vers nous parce qu'on aura une telle sagesse remplie du Seigneur, hein. Ça c'est du Kingdom Now. Ça c'est assez présent dans certains milieux charismatiques aujourd'hui. Mais quand le Seigneur me donnera l'occasion, je vais partager sur un autre thème. Et puis ce thème-là, je vous le laisse un peu comme ça flotter dans le brouillard, entre guillemets. Si vous êtes au clair par rapport à post-millénariste, pré-millénariste, amillénariste, quand je vais aborder ce thème, ça va peut-être vous donner quelques clés de lecture différentes de ce qu'on entend souvent, quand même, pas toujours, mais souvent dans nos milieux évangéliques. Et je vous laisse le thème comme ça, avec un grand point d'interrogation. Le voile un jour sera levé, hein, je vous rassure, hein, je vous laisse un peu de suspense quand même. Je prends un dernier texte qui se trouve dans la deuxième épître de Timothée. Deuxième épître de Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Amen. Si nous persévérons aujourd'hui, eh ben, un jour, nous régnerons aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une promesse. Et cette parole, elle est certaine. Et c'est pourquoi on doit s'encourager, même si on passe par des difficultés, même si en tant qu'Église, peut-être on aurait envie de rayonner beaucoup plus que ce qu'on vit aujourd'hui, hein? On aurait envie que les médias soient là à écouter ce qu'on a à dire. On vit que qu'on ait besoin d'un service de sécurité tellement qu'il y a de monde qui attendrait là-devant, hein? Suivant où peut-être les gens sont allés en discothèque hier soir, c'était le cas. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Hein? Mais suivant quelle compréhension on a du règne de Dieu, alors on va placer, comme je le disais, on va placer des fausses attentes et on va être frustré. Parce que je crois quand même qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. La croix, elle n'est pas facile. Et des fois, on passe par des temps difficiles. Mais Paul, il disait, je supporte toutes ces choses à cause des élus. Pas seulement pour moi, pour la gloire qu'un jour j'aurai avec Jésus-Christ, mais pour les élus, pour vous, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que les promesses du Seigneur, elles sont puissantes sur chacune de nos vies. Ce que Dieu a dit sur ta vie, un jour ça va s'accomplir. Peut-être pas ici sur cette terre, peut-être ici tu auras le déshonneur, tu auras la honte, tu auras le jugement des hommes, tu seras considéré comme rien du tout. Mais un jour, si tu persévères, et c'est pour ça qu'ensemble on doit s'encourager à persévérer sur le chemin de la foi, un jour, et cette parole, elle est certaine, au nom de Jésus-Christ, tu régneras avec lui, et c'est un règne qui commencera sur cette terre pour une période de 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans cette espérance-là. Parce que Dieu a des projets pour toi, des projets glorieux. Tu vas peut-être pas les vivre sur cette terre, mais que ta connaissance puisse encore croître, que tu puisses réaliser l'appel que Dieu a placé sur ta vie. C'est ma prière pour toi ce matin. Amen.